Radio Prague, les informations.
Le ministre de la Santé demandera une augmentation des taxes de régulation dans les hôpitaux tchèques. Karel Schwarzenberg a rencontré le candidat au poste de secrétaire aux affaires européennes. La ville de Plzeň a été désignée capitale européenne de la culture 2015. Encore avant la fin de cette année, le ministre tchèque de la Santé, Leo Heger, soumettra au cabinet le projet d'augmentation des paiements des taxes de régulation pour les soins chez les médecins spécialistes et pour l'hospitalisation en République tchèque. Selon le ministre, ceux qui consultent un médecin spécialiste et qui payent actuellement un peu moins de 30 couronnes devraient payer 90 couronnes, un peu plus de 3 euros. Les malades devraient payer aussi 100 couronnes pour une journée d'hospitalisation. Le chef de la diplomatie tchèque Karel Schwarzenberg du parti Top 09 s'est entretenu ce jeudi avec Ivan Hodač, candidat au poste de secrétaire aux affaires européennes. Ivan Hodač est actuellement à la tête de l'Association européenne des constructeurs automobiles. Nous avons discuté de manière très raisonnable des problèmes qui se posent. J'ai l'intention de rencontrer Monsieur Hodač dans les prochains jours, a déclaré Karel Schwarzenberg, qui s'était opposé à plusieurs reprises à la création même du poste de secrétaire aux affaires européennes. La ville de Plzeň en Bohême de l'Ouest a été élue mercredi à Prague, capitale européenne de la culture, pour 2015. La ville d'Ostrava en Moravie du Nord a terminé deuxième, selon le jury international présidé par Robert Scott. Pour 2015, la ville belge de Mons a également déjà été désignée. Quelques 300 personnes ont fêté mercredi après-midi déjà, dans les rues de Plzeň, la victoire de leur ville dans cette compétition. Le classement de la compétitivité dans le monde, édité par le Forum économique mondial, place la Suisse en tête de liste devant la Suède, le Singapour, les États-Unis et l'Allemagne. La République tchèque, de son côté, a perdu 5 places par rapport à l'année dernière. Elle se trouve actuellement au 36e rang. Le président tchèque Václav Klaus doit rencontrer le ministre de l'Éducation nationale, Josef Dobeš, du parti Affaires publiques. L'introduction cette année du baccalauréat national pour les lycées, projet auquel le président s'oppose fermement, devrait faire l'objet de leur discussion. Météo. Ce jeudi, jour de fête des Daniela, selon le calendrier tchèque, le temps en République tchèque est nuageux, pluvieux. Les températures maximales se situent entre 16 et 20 degrés. Vendredi, le ciel en Tchéquie sera nuageux avec quelques averses et passages pluvieux. Les températures diurnes s'échelonneront de 17 à 21 degrés. C'était les informations de Radio Prague qui vous ont été présentées par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce programme d'actualité. La Chambre des députés a élu le nouveau médiateur de la République, le deuxième dans l'histoire du pays. C'est l'ancien juge constitutionnel Pavel Varvashovski. Nous vous le présenterons dans quelques instants. Au sommaire également, le portrait d'une autre personnalité tchèque, la chanteuse d'opéra, comédienne et promotrice de la culture tchèque dans le monde, Sonia Červená, fête ce jeudi ses 85 ans. L'occasion de vous inviter aussi à l'affaire Makropoulos, une nouvelle création du Théâtre National de Prague, avec justement Sonia Červená dans le rôle principal. Enfin, nous parlerons d'une course de nuit samedi prochain au centre de Prague. Quatre mois après le décès d'Otakar Motejl, le premier ombudsman tchèque, le Parlement tchèque a enfin élu un nouveau défenseur public des libertés. Ce sera Pavel Varvashovski, ancien juge constitutionnel, portrait avec Anna Kubeshta.
Évidemment, remplacer une figure aussi imposante et marquante que celle d'Otakar Motejl n'a rien d'une mince affaire, notamment parce que le tout premier ombudsman tchèque a imposé sa marque à cette fonction par sa stature morale et ses qualités de juriste. Figure respectée de la vie publique tchèque, Otakar Motejl est décédé le 9 mai dernier. Après un vote raté au début de l'été, les députés tchèques ont finalement choisi, mardi, l'ancien juge constitutionnel Pavel Varvashovski à 98 voix sur 181. Un homme peu connu du grand public, ce que lui-même ne considère pas nécessairement comme un handicap.
Donc, on verra si c'est un handicap.
Nous verrons si c'est un handicap. Je dois dire que j'ai été très heureux des réactions des gens qui m'ont contacté après l'élection, des gens qui me connaissent ainsi qu'Otakar Motel, de l'époque où nous travaillions ensemble. Ils m'ont écrit que si Otakar Motel nous voyait de là-haut, qu'il devait être content. Pour moi, cela a une valeur d'engagement.
Prendre la relève de Otakar Motel tout en poursuivant son travail, tel est l'objectif de cet ancien juge qui espère profiter de sa nouvelle fonction pour rendre le droit et la défense des citoyens plus proches du grand public, plus compréhensible. Pavel Varvajovski.
Je suis plutôt quelqu'un de conservateur. Je pense que pour que le droit soit intégré dans l'esprit des gens, il ne doit pas changer au moindre coup de vent. Je pense que les institutions ne doivent pas changer à tout bout de champ, mais qu'au contraire, elles doivent se consolider et se forger une image au sein de la société. Donc je suis pour une continuation des prérogatives de l'institution telles qu'elles existent à l'heure actuelle.
Des prérogatives larges qui dépassent celles du simple médiateur de la République à la française, par exemple. En effet, l'ombudsman tchèque ou défenseur public des libertés sert d'une part d'intermédiaire entre les citoyens et l'État. Ceux qui sentent leurs droits bafoués peuvent faire appel à lui. Mais contrairement aux ombudsman d'autres pays, le défenseur public des libertés en République tchèque a été créé à l'origine comme institution dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention pour la protection de la torture. Il peut donc préventivement visiter des lieux d'enfermement tels que les prisons ou encore les hôpitaux psychiatriques. Ses pouvoirs élargis en font donc un acteur important de la défense des citoyens. S'il entend continuer dans la lignée de son prédécesseur, Pavel Varvajovski espère pouvoir quand même introduire des changements, notamment la possibilité pour l'ombudsman de faire appel à la Cour constitutionnelle pour qu'elle annule des lois dont il estime qu'elles vont à l'encontre du droit des citoyens. En tout cas, côté député et côté commentateur politique, il semble que le consensus se soit fait sur l'élection de Pavel Varvajovski. On écoute le commentateur de Lidové Noviny, Tomáš Němeček.
C'est un solitaire. Il n'a pas peur de se faire des ennemis, ce qui me semble être un bon point de départ pour la fonction d'ombudsman.
Pavel Varvajovski a été élu devant le candidat présidentiel, l'activiste John Bock, ou devant le chef de la communauté juive de Prague, František Baňaj. Il devra prêter serment devant la Chambre des députés dans les 10 jours pour que son élection soit validée.
Grande figure du théâtre tchèque, Sonia Červená, qui fête aujourd'hui ses 85 ans dans une forme physique et intellectuelle éblouissante, a réussi à faire une double carrière. Et quelle carrière, quel parcours de vie! Fille d'un célèbre cabaretier, la mezzo-soprano se fait vite remarquer dans le milieu culturel pragois, notamment après avoir chanté Carmen, son rôle préféré à l'Opéra National. On l'écoute. En 1962, Sonia Červená s'exile en Allemagne de l'Ouest et entame une carrière de rêve. Elle passe 11 années à l'Opéra de Hambourg et incarne au total 112 rôles sur les meilleures scènes européennes et américaines, des rôles du répertoire allemand, italien et français. À San Francisco, Sonia Červená a collaboré avec le chef d'orchestre français Georges Prêtre. Elle s'était produite à Lyon, au théâtre du Châtelet à Paris. Sonia Červená.
J'ai chanté Carmen, en français j'ai chanté Samson et Dalila, et puis quelques œuvres françaises. Je suis allé dans l'école primaire française. La deuxième langue était allemand et puis après français. Alors j'ai appris les deux langues. Et ça m'était beaucoup, ça m'a aidé beaucoup quand j'ai quitté la Tchécoslovaquie et quand je suis resté dans le monde.
Sonia Červená passe aussi pour une excellente interprète de musique de chambre et d'œuvres d'opéra du XXe siècle. Ce n'est qu'après la chute du communisme que le public tchèque peut enfin l'admirer et où la critique apprécie à juste titre son talent en lui attribuant de nombreux prix. À l'âge où elle pourrait passer sa retraite, Sonia Červená incarne Milada Horáková, femme politique exécutée par les communistes dans une pièce inédite au Théâtre National. Le spectacle a un vif succès. À partir du 18 novembre prochain, nous pourrons la voir dans l'affaire Makropoulos, pièce de Karel Čapek, créée toujours au Théâtre National par le metteur en scène américain Robert Wilson. Enfin, pour ceux qui seront le 10 octobre prochain à Prague, ce jour-là, une rencontre de la chanteuse et comédienne avec le public est organisée au Musée tchèque de la musique, rue Karmelecka. À la tombée de la nuit dans le centre historique de Prague illuminé. C'est le privilège qu'auront ce samedi les plus de 4000 participants au Grand Prix de Prague. Comme chaque deuxième week-end de septembre depuis désormais 15 ans, le cœur de la capitale tchèque va battre au rythme de la course à pied. Deux épreuves, 5 km pour les femmes et 10 km pour les hommes, sont organisées par la Société du Marathon de Prague. Guillaume Darquet.
Comme pour le marathon en mai, c'est sur l'air de la Vltava ou Moldao, poème symphonique de Bedřich Smetana, que des milliers d'amateurs de course à pied s'élanceront de la place de la vieille ville. Mais à la différence du marathon, souvent disputé sous un grand soleil, le Grand Prix se tient, lui, sous la lumière artificielle. Peu après que la célèbre horloge astronomique de l'hôtel de ville aura sonné les 8 coups de 20 heures, tous prendront le départ, donné au pied des églises gothiques et baroques de Notre-Dame de Tine et Saint-Nicolas, d'un parcours empruntant quelques-unes des plus belles rues pavées du centre de la capitale tchèque. Autre différence avec le marathon, qui emmène ses participants dans des endroits moins touristiques et fréquentés et permet ainsi aux coureurs étrangers de découvrir d'autres facettes de la ville, le Grand Prix se concentre lui pour l'essentiel autour de la rivière dans les deux plus anciens quartiers de Prague, comme le précise Anne Scheuner, membre de l'équipe organisatrice de la course.
Traditionnellement, le départ se fait sur la place de la vieille ville. Cette année, on a changé la direction des départs. Donc, tous les départs vont s'effectuer vers Pajitska, tourner après pour se diriger vers le pont Manès et faire un loop traditionnellement, comme on suit la course du marathon de l'autre côté du quai. Et revenir sur Pajitska, il y aura un petit détour aussi par le Tseletna et revenir par Zelesna et finir sur la place de la vieille ville.
Malgré la magie de pouvoir courir le soir à la lumière des réverbères et sans les gaz d'échappement des voitures, les 5 et 10 kilomètres du Grand Prix de Prague attirent d'abord et surtout des coureurs tchèques, à la différence notamment du marathon qui compte parmi les marathons les plus internationaux au monde. Anne Scheuner.
Alors oui, c'est indéniable que pour des courses de courte distance, les gens se déplacent moins de l'étranger. Par contre, il y a des opportunistes, ceux qui sont là de toute façon et qui ont par hasard leurs espadrilles et qui vont courir cette course à la dernière minute. On a toujours un pourcentage entre 10 et 15% d'étrangers, ce qui est totalement différent. Pour le marathon, c'est 50%. Pour le semi-marathon, c'est 30%. Donc c'est complètement différent. C'est une course principalement tchèque.
Et pour cette 15e édition, record en termes de participation, la particularité de la course sera renforcée par la possibilité offerte aux participants de courir dans le costume de Philippides, le célèbre messager grec chargé d'aller annoncer à Athènes la victoire après la bataille de Marathon dont est célébré cette année le 2500e anniversaire.
C'était Fais événements en République tchèque par Magdalena Hrozinková. Ne quittez pas l'écoute, tout de suite le miroir de la société avec Alena Gebertova. Fini le suspense, c'est la ville de Plzeň et non la ville de Ostrava qui portera en République tchèque le titre de capitale européenne 2015. Nous avons été présents, mercredi après-midi, au ministère de la Culture lorsque le verdict est tombé.
The Czech city that we recommend to the minister to partner Mons as European Capital of Culture in 2015 is the city of Pilsen.
Pleurs de joie, pleurs de déception. Les émotions des représentants des deux camps, ceux de Plzeň et de Ostrava, ont été très fortes lorsque la décision a été annoncée par Robert Scott, chef du jury, composé de 11 personnalités du pays et de l'étranger. Nous avons retenu la réaction de Ivona Kreutzmanova, directrice du projet Plzeň 2015.
Nous sommes énormément heureuses parce que on a fait vraiment l'effort comme jamais avant. La ville a trouvé une dynamique extraordinaire les derniers mois et je dois dire que l'équipe qui s'est créée autour du projet est très forte. Et je suis sûre que la décision est très très bonne pour la ville et toute la région et aussi pour la République tchèque.
Vous avez devant vous un travail énorme jusqu'à 2015.
Sûrement, parce que c'est le processus. C'est quelque chose qu'il faut développer vraiment lentement avec la participation du public, bien sûr, mais aussi au niveau européen. Et je suis vraiment ravie qu'on peut commencer tout de suite et qu'on peut faire le progrès avec Mons, qui est la capitale culture d'Europe 2015 de côté Belgique. Et on va vraiment développer les choses le mieux possible. Et j'espère qu'on va aussi coopérer avec les villes qui vont venir. C'est Marseille qui nous a énormément inspiré et d'autres villes. Alors, on entre les réseaux tout de suite.
Quels sont les points forts du projet qui a séduit, paraît-il, le jury?
Je pense que ça qui était le plus fort, c'était notre vision de monde plus humain, plus ouvert, qui veut oublier un peu toutes les values matérielles. Et qui va penser un peu de ça qui est le plus important pour le développement de la société. Et c'est notre cœur, ce sont nos émotions, ce sont des valeurs qui sont totalement différentes que consommation, des choses commerciales, etc. Et vraiment, on a travaillé avec plusieurs penseurs, les grands historiens, théoriciens, philosophes. Et on va sûrement inviter dans le projet les personnalités comme Kundera, Rupnik, Havel. Et on veut créer aussi le monde de pensée très fort.
En quelle coopération avec la ville de Mons envisagez-vous?
On a plusieurs sortes de coopérations. Au niveau de programmation, on s'est mis d'accord avec Yves Vasseur, qui va être membre de notre comité artistique. Alors, on va vraiment créer des projets artistiquement ensemble. Mais on veut aussi coopérer sur la communication et évaluation. Alors, avec Yves, vraiment, il y a plusieurs projets. Les technologies et les arts, c'est une des thèmes qu'on a aussi mis dans notre proposition. Et alors, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités.
Vous êtes parfaitement francophone. Est-ce que la francophonie aura aussi une certaine place dans le projet Capital Européen 2015?
Mais c'est bien sûr, parce que la francophonie, c'est la partie de Pilsen et il y a Alliance Française qui travaille à Pilsen déjà longtemps. Alors, on est là et on est prêts.
C'est vraiment jusqu'au dernier moment que vous ne saviez pas si c'est vous ou bien si c'est la ville d'Ostrava?
Absolument, absolument. Vous ne pouvez pas imaginer la tension de toute équipe, mais en même temps, l'enthousiasme qui a créé l'atmosphère très forte aussi pour notre présentation et aussi pour toutes les questions qu'on a dû quand même répondre.
Situé à près de 100 km de Prague, Plzeň est le chef-lieu de la Bohême occidentale, connue notamment comme une ville de la bière qui a donné son nom à une des marques mondialement connues. Elle veut désormais s'imposer aussi comme une ville de culture et de création, comme une ville ouverte à l'Europe. Plzeň Open Up est d'ailleurs le slogan qu'elle a choisi pour sa candidature. choisir l'un des deux candidats tchèques qui se joindra à la ville belge de Mons, qui avait déjà été sélectionnée auparavant, semble avoir pourtant été difficile. Le résultat très serré, 6 voix contre 5, en est une preuve. C'est ce que nous a confirmé Madame Olga Voivre-Darvor, membre du jury international.
Cette fois-ci, c'était vraiment très très difficile, parce que les deux villes avaient la candidature absolument parfaite. Chaque ville étant différente, dans un contexte différent, de différentes tailles, mais ayant un projet fantastique, Ostrava et Plzeň aussi. Donc après, dans la décision de ce genre, il faut s'en tenir aux critères de l'Union européenne. Et nous avons travaillé d'une manière tout à fait pragmatique, c'est-à-dire que nous avons observé les critères et le candidat qui était plus près ou plus loin du but. Qui a été dit. Donc voilà, c'était comme ça, c'était vraiment tout près.
Quels sont, d'après vous, les principaux atouts du projet de la ville de Plzeň qui a gagné?
Je pense que c'est aussi, entre autres, c'est aussi l'ouverture et la dimension européenne qui parfois est très mal comprise par les candidats pour la ville européenne de la culture. Cette dimension européenne, c'est un cliché presque, mais parfois c'est malentendu. Il y a des malentendus dans l'interprétation. Donc peut-être c'est là, mais il y avait d'autres points où ils étaient plus près des critères. On peut pas aller dans les détails, mais en tout, ils se sont rapprochés, disons, d'un quart de point plus près. Et c'est ça ce qui a déterminé la décision du jury.
Est-ce que la visite des deux villes, finalement, a pu aussi jouer encore un certain rôle?
Certainement. Ça nous a donné une idée claire parce que nous avons visité vraiment les lieux et nous avons fait connaissance des équipes, ce qui est déterminant pour la réussite d'un projet de cette ampleur, certainement.
Et qu'est-ce que ça signifiera pour la ville de Plzeň, ce titre?
Ben, je pense que ça leur donnera encore de l'énergie et de l'enthousiasme qui est déjà là, mais l'énergie elle va croître et puis ça va les aider à s'ouvrir davantage parce qu'ils ont des projets qui vont dans ce sens-là. Donc, c'est toujours pour la ville qui reçoit le titre, c'est toujours encourageant et c'est le point de départ seulement. Le reste, c'est le faire et après c'est une autre question parce que la Commission européenne suit de près le travail de la ville qui obtient le titre. Donc ce n'est que le début, maintenant.
Le verdict rendu par le jury international ne demeure toutefois qu'une simple recommandation communiquée au ministre de la Culture. À lui, par la suite, de faire part de sa décision définitive à l'Union européenne. Ceci dit, comme M. Robert Scott l'a rappelé à Prague, il n'est encore jamais arrivé dans le passé qu'un ministre ne respecte pas cette recommandation. À Plzeň donc de jubiler.
C'était le miroir de la société. Le programme de Radio Prague en langue française se termine. Merci de l'avoir suivi. Magdalena Hrozinková au micro et Irena Viernochová à la réalisation. Vous disent au revoir. À demain.
en su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0:30 horas UTC, los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.